Cette journée étude, merci beaucoup d'être venu assister et participer. Alors, comme vous le savez, si nous sommes tous réunis aujourd'hui, c'est pour nous pencher ensemble sur une question, une intention commune, c'est réinterroger la mondialisation à nouveaux frais. Alors, la mondialisation, c'est un terme bien connu, presque banalisé en fait, depuis les années 90, qui est devenu presque un poncif. Et qu'on trouve principalement associé à des thèmes économiques, politiques, socioculturels. Or, ce terme qu'on croit tellement bien connaître qu'on se passe parfois de le définir est en réalité pluriel, divers, et il doit être constamment remis sur l'ouvrage. C'est ce qu'on propose de faire aujourd'hui, interroger, remettre en question la mondialisation, décentrer l'approche. Alors, je voudrais illustrer cette volonté par peut-être un petit exemple, une petite anecdote. En août 2017, le journal Libération publiait un entretien avec l'historien Pierre Singaravelu, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent sûrement, et qui est intitulé « Tianjin, la mondialisation asiatique avant l'heure ». Dans cet entretien, l'auteur lève le voile sur l'histoire assez incroyable de la ville de Tianjin, qui, à l'aube du XXe siècle, comptait pas moins de 9 concessions occidentales, qui ont apporté des influences certaines à la ville, qui ont créé une ville très cosmopolite dans laquelle les pagodes chinoises cohabitaient avec des architectures françaises, bavaroises, toscanes ou japonaises. Là, le visiteur, l'habitant, pouvait goûter à toutes les sortes de gastronomie et même jouer au basketball avant même qu'ils soient introduits dans un certain nombre de pays européens. Cependant, ce cas de Tianjin, ne raconte pas seulement l'histoire d'un transfert culturel, technique, politique depuis l'Occident vers l'Asie. D'accord ? En effet, si on regarde de plus près, on s'aperçoit que les Japonais jouaient un rôle très important d'un point de vue militaire dans la région. Les soldats indiens, mongols et vietnamiens constituaient des leviers essentiels des puissances coloniales britanniques, russes et françaises. Les Chinois eux-mêmes avaient leur mot à dire. Par exemple, la gouvernance internationale mise en place entre 1900 et 1902 et son système de pétition populaire emprunté en réalité largement au confucianisme. De même, les Shendong, notables chinois, coproduisaient de manière assez approfondie la politique publique. Enfin, les autorités mobilisent la médecine chinoise traditionnelle pour lutter contre le choléra. Donc, on a ici le cas de Tianjin qui met en évidence la complexité et la richesse d'un processus de mondialisation à l'aube du XXe siècle, alors que ce processus de mondialisation est quand même souvent réduit à un phénomène purement occidental, impulsé par l'Occident, voire monopolisé, confisqué par l'Occident. Ainsi, l'économiste Serge Latouche se faisait un peu provocateur lorsqu'il la décrivait en 1989 comme l'occidentalisation du monde. Pour lui, il y avait une équivalence entre mondialisation et occidentalisation du monde. Il assimilait la mondialisation à un rouleau compresseur occidental venant niveler le monde en un vaste espace de plus en plus homogène. Or, il est évident que la réalité est en fait bien plus foisonnante et stimulante que cela, et c'est bien l'objet de cette journée d'études que de proposer un changement complet de perspective. En se positionnant aujourd'hui résolument du point de vue asiatique, on va chercher ensemble à réinterroger la mondialisation sous l'angle d'une mondialisation asiatique et à l'asiatique. Alors, l'originalité de notre discussion dépendra de l'analyse de caractéristiques à la fois localisées et globales de la mondialisation en Asie, avec toutes les spécificités et particularités de cet espace. En somme, une analyse qui permettra de dégager à la fois les qualités très locales de pratiques observées en Asie et leurs dimensions fortement globalisées. Donc, interroger la mondialisation, penser, repenser, examiner les formes de circulation, d'échange et d'interaction en Asie, ça signifie questionner les spécificités des mondialisations, des globalisations, et interroger les catégories d'hybridité, de flexibilité, de simultanéité et d'interdépendance qui caractérisent aujourd'hui les phénomènes transnationaux en général et asiatiques en particulier. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans l'analyse théorique de la mondialisation, je cède maintenant la parole à Béatrice.
Merci Martin. Nous avons lu vos belles interventions et vos papiers et nous avons cherché à rassembler un tout petit peu, en cas théorique, quelques perspectives analytiques dans ce but de pluridisciplinarité qui est voilà, la dimension centrale de notre journée d'études. En même temps, nous savons que ce souci de pluridisciplinarité pose un problème inévitable, nous place devant une problématique inévitable qui est celle d'un enjeu de définition. Comment définir cette mondialisation quand on se place dans des différentes disciplines ? Les sciences sociales proposent des définitions très variables, très diverses de ce processus de mondialisation qui serait inévitable et irréversible, pour citer Beck. Et on sait que malgré la diversité disciplinaire et donc définitionnelle, notre enjeu d'aujourd'hui, qui est un véritable challenge avec toutes les disciplines qui nous rassemblent, ne sera pas du tout celui de dégager une définition univoque et unilatérale de cette mondialisation, mais bien au contraire, en nous appuyant ensemble sur les différentes disciplines et en nous basant, en nous fondant sur des cas empiriques très précis et très concrets tels que ceux que vous avez proposés dans vos papiers, on cherchera à dégager des analyses très ponctuelles et très situées du phénomène de globalisation dans certains espaces asiatiques. Comme je viens de le dire, en sciences humaines et sociales, les réflexions sur la mondialisation se rapprochent et divergent d'un point de vue épistémologique, d'un point de vue méthodologique et d'un point de vue même ontologique. La question qu'on se posera, serait celle de comprendre comment un phénomène qui, a priori, devrait produire à l'échelle globale une homogénéisation des espaces sociaux, des mondes sociaux, des normes, des pratiques, des territoires, permet-il dans la pratique le maintien, la survie, voire la résistance de formes et des logiques très locales et localisées. La question qu'on se posera aujourd'hui sera celle donc de la traduction du global dans le local et du local dans le global. En sciences sociales, l'idée de mondialisation en tant que phénomène ancien semblerait faire consensus. La question qui se pose et qui ne fait pas du tout consensus est celle, au contraire, des formes, des modalités de mise en place et de déroulement de ce phénomène, notamment si on l'observe à l'intérieur d'espaces qui ne sont pas occidentaux, qui ne sont pas européens, vis-à-vis desquels on n'est pas forcément très, très familier. Voici effectivement l'intérêt de notre journée d'études et de notre problématique. Penser, repenser, observer et analyser les formes, les modalités, les spécificités asiatiques de cette mondialisation. Mondialisation qui est un mot qu'on pourrait aujourd'hui, on pense, décliner même au pluriel avec un S à la fin. Des mondialisations. La qualité des sujets, des terrains, des situations observées pendant nos recherches des terrains en Asie permettrait alors de dégager des exemples et des réponses sans doute provisoires et très partielles aux questionnements qu'on vient de soulever. Nous savons que pour les géographes, pensons à Jacques Lévy, pensons à Michel Lusseau, la mondialisation est d'abord un changement d'échelle. On peut la penser, on peut la définir comme l'invention d'un espace à l'échelle mondiale à partir d'espaces préexistants à l'échelle inférieure. En d'autres termes, cette mondialisation évoque l'avènement d'un territoire monde, d'une société monde. Elle transforme profondément l'espace. Elle crée ses propres territoires à toutes les échelles, à l'échelle mondiale, à l'échelle régionale, à l'échelle locale, à l'échelle micro-locale. Les espaces globaux, les espaces régionaux, les espaces locaux, micro-locaux, les lieux de travail, les lieux de vie, les lieux d'habitation suivent plus ou moins consciemment, plus ou moins volontairement, les rythmes frénétiques ou ralentis de cette mondialisation ou de ces mondialisations. Les territoires sont transformés, ils changent de taille, ils changent de fonction. des nouvelles hiérarchies émergent, aussi bien que des nouvelles inégalités, des nouvelles formes de mise à distance, de marginalisation ou d'exclusion. La définition même de l'espace change de substance et nécessite une actualisation constante en fonction justement de ces temps, de ces rythmes, de ces lieux et de ces distances dès la mondialisation.
Merci beaucoup Martin, Béatrice. Donc recréation, réinvention, transformation, changement, d'accord. Cependant, cette dynamique multiscalaire d'affirmation du global n'est pas synonyme de disparition du local. Elle se déploie de manière différenciée et négociée sur un substrat local qui a son mot à dire et qui réagit, qui s'adapte à la mondialisation quand il ne la réadapte pas elle-même. Local et global s'enchevêtrent, se croisent et dialoguent de façon constante au sein du monde élargi et donc raccourci. L'intérêt d'une réflexion sur l'interaction entre le local et le global avait déjà été signalé précédemment par Roland Robertson, qui a proposé de parler de glocal. En prenant distance avec le discours d'une homogénéisation des sociétés, évidemment, ce point de vue autorise à penser de l'hybridation, de la réaction, et de la pondération. Il remet en cause l'opposition traditionnelle entre le capital relevant du global et le travail relevant du local. Ce qui rappelle immanquablement les doutes connus, par exemple, dans la discipline anthropologique pendant les années 1900-1910, quant au développement des théories de l'évolution sociale ou de la diffusion culturelle. Alors, dans cette perspective d'échange et de rencontre entre le local et le global, toujours, il n'est donc plus seulement question d'une mondialisation, d'un accès planétaire à l'échange, mais davantage de globalisation, selon les termes du sociologue Ulrich Beck, de ce, entre guillemets, processus en vertu duquel les États-nations souverains se mélangent et imbriquent à travers des acteurs transnationaux et leur capacité de pouvoir, leurs orientations et leurs identités. Je ferme les guillemets. Ainsi, la singularité du processus de globalisation réside dans la ramification, dans la densité et dans la stabilité qualitative des réseaux de relations, ainsi que dans son autodéfinition des moyens de communication et des espaces sociaux nouveaux. D'un point de vue plus spécifiquement anthropologique, toujours, la globalisation ne peut résolument plus être résumée à une économie de l'échange, de la propriété et de la connaissance entre individus ou groupes. Elle se caractérise aussi par une intensification des relations à travers les frontières hypothétiquement hermétiques et solidaires que représentent notamment les États ou les administrations publiques. La globalisation se comprend encore plus fondamentalement dans la fragilisation des systèmes institutionnels dont l'État fait partie, ainsi que le marché, notamment par la redéfinition de leurs frontières et citoyenneté caractéristiques. Peuple, nation, frontières, la globalisation introduit une exacerbation de l'alternative au pouvoir établi, une ouverture de nouveaux faits et lieux du politique que la science se doit d'examiner. Car c'est là que se jouent la légalité, la légitimité, la rationalité et la régularité d'institutions capables, ou non, de répondre au marché et aux entreprises, principaux moyens et moteurs de la globalisation. Pour ce marché, comme pour l'État, institution parmi d'autres donc, il s'agit de prendre la mesure de leur caractère fonctionnel et dynamique, autant que de la croyance, de la foi qui leur sont portées.
Donc, comme vient de le mentionner Yann, et voilà le fil rouge de notre réflexion d'aujourd'hui, comme on le disait, dans ce contexte qui serait à la fois local et global, global et local, les interconnexions, les échanges et les mouvements, vous voyez bien le titre de notre journée d'études, voilà, les mouvements des gens, de biens, de capitaux, de normes, de savoirs, s'amplifient. La question de l'espace, du territoire et donc implicitement, comme nous l'avons dit tout à l'heure, leur définition s'impose comme nécessaire. Ce questionnement converge avec le positionnement, par exemple, du politiste Bertrand Badi, qui, sur un ton provocateur, nous avait annoncé la fin du territoire national avec la mondialisation. Certes, comme l'affirme Ulrich Beck, qu'on a beaucoup cité aujourd'hui et je pense qu'on va continuer, la mondialisation supprime ces idées d'un espace homogène et fermé et correspond par conséquent à une forme d'érosion, mais aussi de transformation de l'État national, de l'État-nation. Les espaces, les frontières prennent des formes nouvelles et l'État, ce récipient qui était le cadre d'analyse précédent, un cadre d'analyse au niveau physique mais aussi au niveau normatif ne semble plus suffire, comme nous le dit Beck, en tant que cadre analytique dans ce contexte mondialisé. Dans ce sens, la mondialisation remet en question, bouleverse, voilà, un des présupposés centraux de la première modernité, une modernité non globalisée, à savoir celui que Beck et d'autres, par la suite, appellent le nationalisme méthodologique, donc cet État-nation en tant que cadre d'analyse, en fonction duquel les contours des sociétés, d'un point de vue normatif, physique, etc., correspondent aux contours de l'État-nation. Avec la globalisation, on assiste pas seulement à une nouvelle multiplicité des connexions et des relations entre les États et les sociétés, entre les sociétés et les différents mondes sociaux, mais aussi à une remise en question de la structure et des présupposés fondamentaux selon lesquels s'est créé, vivait et s'organisait jusqu'à présent les sociétés et leurs éventuels États. La rupture envisagée, de cette unité de l'État-nation et de la société nationale, celle que Beck appelle la globalité, implique l'émergence d'identités, d'espaces, des territoires, des situations, de pratiques, de savoirs nouveaux, ainsi que l'émergence de processus sociaux transnationaux. Les frontières, telles qu'elles avaient été conçues auparavant, pendant cette première modernité non globalisée, perdent leur ancienne dimension territoriale, économique, culturelle, technique et informationnelle. On sait que Beck pousse son analyse jusqu'à la rupture du concept d'État-nation devant la globalisation. Et il se rend compte, il nous explique que les communautés ne peuvent plus reposer sur un territoire spécifique et fermé, et que l'espace se transforme constamment à travers ces dynamiques de connexion et d'interconnexion permanentes. Émerge donc le transnational. Nous concevons aujourd'hui, et je pense que nous considérons que vos communications donnent bien visibilité à la définition qu'on vous propose aujourd'hui. Nous concevons ce transnational en tant qu'un espace d'échange et de simultanéité. Une simultanéité qui permet, pour citer Alain Tarus, d'exister ici et là-bas ou ici et là-bas en même temps. Il s'agit d'un mouvement croissant, d'un échange croissant et permanent de normes, de pratiques et de codes à des échelles différentes, globales et locales. Nous avons lu avec intérêt vos beaux papiers, vos belles communications, et en fin de compte, on considère que l'ensemble, le fil rouge, pourrait être celui de l'hypothèse suivante, une hypothèse selon laquelle il serait aujourd'hui nécessaire d'adopter une vision nouvelle, une vision cosmopolite, pour réciter Beck aujourd'hui. L'objectif serait donc, à travers des analyses empiriques très ponctuelles et très situées, de sortir de ce narcissisme autocentré de l'État-nation, pour réciter Beck, et d'interpréter les sociétés dans ce contexte globalisé de manière différente, à travers, en les concevant comme un processus multidimensionnel qui a changé de manière irréversible la nature historique des mondes sociaux. Aujourd'hui, de manière plus large, vous allez présenter des aspects pouvant primer, expliquer ou démontrer des pratiques et des représentations d'institutions, de groupes et d'individus pris dans des tensions de migration, d'identité ou encore d'espace et de territoire. Concevoir les mondes sociaux et les situations sociales en contexte globalisé signifie, in fine, les placer à l'intérieur d'un processus qu'on pourrait penser même comme dialectique, ou au moins sans doute non linéaire, à l'intérieur duquel le local et le global ne sont plus conçus en tant que polarité, mais en tant que principe interconnecté et réciproquement interpénétrant.
Merci Béatrice. Alors, est-ce que le cosmopolitisme permet de comprendre la globalisation au-delà des notions d'État, de nation, culture, société ou encore de marché ? Pour ouvrir la perspective ou engager une réponse, voici un élément d'ailleurs qui revient souvent et qui sera même caractéristique de vos réflexions présentées aujourd'hui. Nous faisons face à une affirmation, une réaffirmation, au moins par tentative, de l'État et ou des territoires, des identités locales par des moyens différents. C'est justement à cause de cela qu'il est nécessaire, je crois, voire même impératif, de penser le phénomène de globalisation comme allant de pair avec la survie, la conservation et le maintien de pratiques locales et territorialisées. Penser le global impose nécessairement de penser ou repenser le local, un local territorial qui se conserve en s'adaptant, en suivant, voire en contestant le phénomène de globalisation galopante. Notre choix aujourd'hui de mettre l'accent sur les spécificités de la mondialisation asiatique, quid dans, entre, depuis ou vers les pays asiatiques, correspond effectivement à une préoccupation centrale pour le local, intrinsèque à l'analyse de la mondialisation et du transnationalisme. Comme nous venons de le montrer, les notions de souveraineté, de frontières, de citoyenneté sont des constructions forgées autour du concept de localisme. Cependant, ce concept semble aujourd'hui effectivement se désagréger en hybridité, fluidité, flexibilité, voire interdépendance. Parallèlement, concevoir l'espace asiatique comme étant de plus en plus globalisé, donc caractérisé hein, par des mouvements, des circulations constantes, intensifiées, cette conception implique l'impossibilité d'associer les individus, les groupes ethniques ou les sociétés à une localité fixe et exclusive. Les idées de mobilité, de frontières ne doivent pas être réduites à une dimension strictement physique, matérielle, mais il faut au contraire les concevoir dans leur forme symbolique, immatérielle et morale, éthique. La conjonction avec la transgression ou la réinvention des frontières par les acteurs, le contrôle ou l'abandon relatif de ces frontières par les États, aussi bien que leur tentative de réaffirmation et redéfinition de ces mêmes frontières, selon des stratégies toujours nouvelles, articule, selon moi, les déclinaisons du tir à la corde entre les structures nationales et le pouvoir d'action par le bas des acteurs à travers, donc justement, ces frontières étatiques. Dans cette perspective, les structures en capacité d'action des acteurs sur la scène transnationale ne sont plus conçues comme des entités d'homogénéité, mais pensées comme un conglomérat d'intérêts différents, parfois même en conflit entre eux. Ce sont de nouveaux espaces politiques qui se créent, se dégagent dans une fragilisation de l'État pour et dans ses actions ou représentations. Il s'agit alors ici de constater et saisir comment la gouvernance se déplacerait d'une institution à l'autre, selon quelles prérogatives, obligations et contraintes, mais aussi avec quels effets ou manifestations. Béatrice.
Voilà, on avait préparé une belle présentation de chacune de vos interventions, mais nous sommes très en retard, donc je pense qu'on va raccourcir un peu. Comme vous l'avez compris, dans cette journée, on a fait le choix d'un cadre spatial et temporel qui est très large, qui répond à un impératif méthodologique et épistémologique très clair. On ne veut pas nier des contextes, mais on veut justement croiser nos objets d'étude, nos perspectives, pour faire ressortir des régularités, des correspondances, des conjonctions, voire des négociations et des ruptures. Donc, l'ensemble de vos interventions, qu'on ne présentera pas à ce moment parce qu'on est trop en retard, malheureusement, montre bien, sur un plan à la fois théorique et empirique, l'importance, et voilà la clé de lecture et le fil rouge de notre journée d'études, nous l'espérons, de ce dualisme local, global, global-local, et de ces différentes déclinaisons en Asie, asiatiques. Donc, l'interaction, l'échange, la négociation et le conflit, pour reprendre le titre de notre journée d'études, voilà les échanges et les interactions entre les pratiques locales et globales dans l'ensemble de ces espaces asiatiques représentent probablement voilà, la clé de lecture la plus intéressante et pertinente pour appréhender les formes et les spécificités de la globalisation en Asie. Vous avez le programme affiché au tableau. Je pense qu'on peut tout de suite commencer avec le premier panel savoir mondialisé et production locale.
Et donc on va appeler directement les modérateurs ainsi que les participants.
Voilà, donc un grand merci
à Grégory Delaplace et Nathalie Lancret, donc qui vont être les modérateurs, animateurs et spécialistes de ce premier panel. Et puis on va demander aussi à Eugénie Mériot, Nolwenn Salmon et Clément Jacquemoud de nous rejoindre sur cette table. Merci beaucoup.
Scène.
Oui, bonjour. Donc cette première session intitulée « Savoir mondialisé et production locale », vous nous avez demandé avec Grégory de la Place d'animer cette session et nous tenons à vous remercier, donc les jeunes chercheurs qui nous ont confié cette tâche et qui nous ont permis de lire des contributions tout à fait passionnantes. Donc cette session est composée de 3 communications qui examinent la circulation des savoirs, des normes, des référents, le plus souvent issus de pays d'Occident, et les difficultés, voire les limites de leur transfert dans des sociétés autres. Donc, sur différents terrains, à différentes époques, les 3 exposés analysent les tensions, les résistances, parfois les conflits auxquels donnent lieu ces transferts, et ils interrogent également la production de connaissances, de pratiques, de savoirs que l'on pourrait dire alternatifs ou du moins locaux, des productions qui composent autrement avec les référents mondialisés en se référant à des cultures locales. Alors, je vais juste dire quelques mots d'introduction pour présenter nos jeunes chercheurs. Donc, la première communication sera faite par Eugénie Mériot, une communication intitulée « Les circulations du droit constitutionnel en Asie ». Donc, Eugénie, vous êtes diplômée de Sciences Po en relations internationales, de l'INALCO, où vous avez appris le siamois, et de la Sorbonne dans le domaine du droit. Et vous avez fait en 2017 à l'INALCO une thèse de sciences politiques sur le constitutionnalisme thaïlandais à la lumière de ses emprunts étrangers, une étude de la fonction royale. Et vous êtes actuellement en post-doctorat à la chaire du constitutionnalisme comparé à la faculté des sciences sociales de Göttingen. Je ne vais pas présenter, je crois qu'on est pressé par le temps, donc j'avais préparé quelques mots sur votre exposé, mais on y reviendra à la fin. Ensuite, je passerai la parole à Nolwenn Salmon pour une communication intitulée « La diffusion des normes journalistiques anglo-saxonnes en Chine, assimilation et composition ». Donc, vous êtes diplômée de l'ENS de Lyon dans un master d'études chinoises et vous avez soutenu en 2016 une thèse en histoire, société et civilisation à la Sorbonne Paris-Cité, une thèse intitulée « Les journalistes chinois engagés dans le domaine de l'environnement, les équilibres de la critique entre acceptation et repère du politique ». Et enfin, Clément Jacquemou terminera cette session avec une communication intitulée « L'Altaï du monde, interaction transnationale en Sibérie du Sud ». Donc, vous êtes diplômé de l'EPHE en sciences des religions et sociétés et vous avez soutenu en 2017 une thèse « Diversité religieuse et république de l'Altaï, concurrence et convergence, enquête sur le renouveau religieux des Altaïens de la république de l'Altaï ». Voilà, nous vous passons la parole pour un temps de 20 minutes max, nous a-t-on dit. Et donc, nous allons être vigilants.
Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui dans cette journée d'études et donc pour remercier les membres du bureau qui ont fait, je pense, un travail fantastique et passionné, du moins de ce que j'ai pu en voir. J'ai un petit cadeau pour l'ensemble des membres du bureau. Donc c'est un livre que je viens juste de publier. En fait, il y en a 2. Mais juste un, idée reçue sur la Thaïlande, comme il y a peu de choses sur la Thaïlande, ça peut peut-être vous intéresser. Donc voilà, je vous en prie, c'est cadeau. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais parler des circulations du droit constitutionnel en Asie. C'est une extension de ma thèse. Donc ma thèse était une thèse en droit comparé sur les emprunts opérés par le Siam puis la Thaïlande pour construire sa monarchie. Dans le cadre de cette thèse, je me suis rendu compte que les emprunts n'étaient pas uniquement cantonnés à la sphère occidentale, mais bien plus même, les emprunts étaient issus de l'Asie, notamment du Japon, de la Chine et de l'Inde. Et c'est à partir de cette réalisation-là que j'ai développé un nouveau projet, qui est mon projet de post-doctorat, qui s'intéresse de façon plus globale aux circulations du droit constitutionnel en Asie. C'est un projet qui s'inscrit donc dans une approche qui, je pense, est la nôtre ici. C'est une approche de décentrement des approches, un décentrement de l'étude du droit constitutionnel, donc l'idée étant de provincialiser l'Europe. Dans le cadre du droit constitutionnel, c'est une approche résolument novatrice, puisque l'étude du droit est encore très marquée par l'orientalisme, l'idée selon laquelle le droit asiatique n'est pas un véritable droit, et en ce sens, il n'est pas finalement intéressant de l'étudier, ou il n'est pas digne d'une étude juridique de ce nom. Et donc mon approche vise à déconstruire l'orientalisme qui irrigue l'étude du droit. Et je m'appuie sur un ouvrage de Timur Uskela, dont je pense la plupart des personnes ici doivent être familières, qui s'appelle Legal Orientalism, et qui montre bien comment cet orientalisme a été à l'œuvre dans l'étude du droit chinois. Donc il s'agit de déconstruire de la même manière pour l'ensemble du droit asiatique. Alors, mon projet initial pour ce papier était beaucoup plus vaste et beaucoup plus ambitieux, mais étant donné le nombre de signes qui nous étaient alloués, je me suis concentrée uniquement sur la deuxième partie de mon projet. Donc, initialement, j'avais une première partie plutôt longue sur les traditions juridiques asiatiques, donc une perspective de temps long. Ensuite, je m'intéressais à la première introduction du constitutionnalisme en Asie, donc à la toute fin du 19e siècle, via la constitution japonaise de Meiji en 1889. Puis, je m'intéressais au constitutionnalisme dé- ou post-colonial de l'après-Seconde Guerre mondiale, en confrontant les modèles libéraux indiens et les modèles autoritaires chinois, qui continuent à rayonner dans l'ensemble de l'Asie aujourd'hui, et concluant par la troisième et actuelle vague de constitution en Asie, c'est-à-dire la vague de constitution qui fait suite à l'éclatement de l'URSS et à ce qu'on appelle le printemps asiatique dans les années 97-98 en Asie. Enfin, à partir des années 90 et surtout fin des années 90. Donc, dans cette présentation, je vais me concentrer sur la deuxième partie, l'introduction du constitutionnalisme en Asie à la fin du 19e siècle, le modèle Meiji. Mais avant cela, je voudrais replacer mon questionnement dans l'actualité et vous parler un tout petit peu de la décision de la Cour suprême indienne qui a eu lieu jeudi dernier. Pourquoi ? Parce que une des questions qui revient fondamentalement dans l'étude du droit constitutionnel vue de l'Occident, c'est la question des jugements des cours constitutionnelles. Nous, en France, comme aux États-Unis, comme dans la plupart des États occidentaux, nous appréhendons le droit à l'aune de ces jugements et à l'aune des attitudes de ces cours. Et dès lors que l'on appréhende le droit par le prisme des jugements des cours suprêmes ou des cours constitutionnelles, on a tendance en effet à considérer que les circulations du droit vont davantage du nord vers le sud qu'elles ne sont inter-asiatiques. Et en ce sens, le jugement de la Cour suprême indienne de jeudi dernier qui a décriminalisé la sodomie et l'homosexualité en Inde est finalement un exemple flagrant, puisque si l'on lit le jugement, que tout le monde peut lire puisqu'il est publié également en anglais, qui est un jugement magnifique de 500 pages, qui est un grand récit poétique, on peut voir que toutes les sources qui sont citées sont principalement occidentales. En effet, la Cour suprême indienne elle cite Shakespeare, elle cite les paroles de la chanson de Leonard Cohen, donc le chanteur canadien, The Ashes of the Gay, et quand elle fait référence à la jurisprudence étrangère, elle se réfère à la jurisprudence des États-Unis de 2015 qui a donc autorisé le mariage gay. Et donc, on peut s'imaginer, si l'on regarde la Cour suprême indienne, que pour la Cour indienne, le droit constitutionnel qui fait référence est uniquement le droit constitutionnel occidental et la littérature ou les idées qui font référence sont uniquement la littérature occidentale. Mais c'est un peu c'est faire preuve de cécité que de s'arrêter à ce jugement et d'en tirer les conséquences que je viens de tirer pour vous. Si on s'arrête sur l'article en question qui a été invalidé par la Cour suprême indienne, c'est-à-dire l'article 377 du Code pénal, qui punit les relations sexuelles contre nature, donc qui a été ensuite interprété comme étant la sodomie. C'est l'article 377 qui a été introduit par le Royaume-Uni donc à la fin du 19e siècle dans l'ensemble de ses colonies. On le retrouve également tel quel exactement à l'article 377 du Code pénal de Singapour. Et donc à quoi on peut s'attendre dans un avenir proche? À ce que cette décision de jurisprudence de la Cour indienne soit répliquée dans les autres pays du Commonwealth, notamment asiatiques, qui ont les mêmes provisions et dont la société évolue également en faveur d'une plus grande tolérance. Et d'ailleurs, à cet égard, on peut voir que d'ores et déjà, la Cour suprême indienne, par sa jurisprudence, rayonne dans l'ensemble de l'Asie, mais également en Occident, avec cette décision que vous connaissez peut-être, qui est la Basic Structure Doctrine, en 1973, qui est une décision indienne, qui aujourd'hui est enseignée dans toutes les facultés, que ce soit aux États-Unis, en France ou dans l'ensemble de l'Asie. Voilà, donc j'en viens maintenant à ma partie, à mon texte plus précisément. Alors, l'introduction du constitutionnalisme en Asie est un phénomène qui date de la fin du 19e siècle, et qui prend place dans un contexte particulier, qui est celui de l'expansion européenne en Asie, et notamment pour les nations que nous allons étudier en particulier, c'est-à-dire le Siam, la Chine et le Japon. Des traités d'extraterritorialité, des traités inégaux. Donc ces traités, ils ont été signés dans les trois pays à l'étude entre 1840 et 1850. Et ils se présentent tous de la même manière. Ce sont des traités bilatéraux qui sont répliqués ensuite avec plusieurs nations occidentales qui prévoient l'extraction d'une certaine partie de la souveraineté de ces États, notamment en ce qui concerne la souveraineté judiciaire, c'est-à-dire que selon les traités inégaux, en vertu de ces traités inégaux, les Européens ne sont pas soumis aux tribunaux nationaux dans les pays en question, mais ils sont soumis à des juridictions consulaires qui sont donc tenues par des ambassadeurs ou par des consuls, c'est-à-dire par des nationaux européens. Donc ça, c'est une partie. L'autre partie, bien sûr, celle dont on est plus familier, c'est la partie donc commerciale qui soumet l'ensemble du commerce de ces nations aux besoins européens. Alors c'est pour se défaire de ces traités inégaux, d'une part, que le constitutionnalisme a été importé, et je souligne ce titre, importé et non pas imposé, dans ces trois pays d'Europe pour justement apparaître aux yeux des nations occidentales comme civilisées et ne pas subir la colonisation. Et donc, pour se défaire des traités inégaux, les pays, la Chine, le Siam et le Japon, ont fait le choix de l'occidentalisation de leurs droits. Et ils ont commencé par la réforme du droit pénal et ensuite l'introduction de constitutions modelées sur le système, sur le modèle européen. La constitution fondatrice, c'est la constitution de Meiji en 1889, qui a été inspirée fortement du modèle prussien, c'est-à-dire de la constitution de 1850, qui consacre la souveraineté impériale en Prusse. C'est une constitution donc de modernisation conservatrice. Non seulement il s'agit d'apparaître aux yeux des Occidentaux comme civilisés, car doté d'un droit moderne, c'est-à-dire un droit occidental, et d'une constitution moderne, c'est-à-dire occidentale, mais en même temps, de désamorcer les velléités révolutionnaires ou constitutionnelles qui se font jour alors au Japon. Et donc, le Japon de Meiji proclame sa première constitution en 1889. Et cet événement a un grand retentissement dans toute l'Asie, notamment en Chine et au Siam. Au Siam, où les fonctionnaires commencent à demander au roi, à l'époque, Shula Longkorn, de octroyer également une constitution sur le modèle japonais au siamois pour se défaire à la fois des traités d'extraterritorialité et pour désamorcer la possibilité d'une révolution. Et on observe le même phénomène en Chine. Alors, en Chine comme au Siam, le processus de modernisation conservatrice n'a pas été linéaire, puisque en Chine, on a eu dans un premier temps une constitution en 1908 qui est calquée sur le modèle de Meiji, donc une constitution impériale, mais ensuite, avec la révolution de 1911, nous avons des constitutions républicaines. De la même manière, au Siam, la première constitution en 1932 qui fait suite à une révolution du 24 juin est une constitution révolutionnaire, et ce n'est qu'ensuite, le 10 décembre 1932, par une seconde constitution, que nous avons la mise en place d'une constitution monarchique. Donc, si on s'intéresse à l'héritage de la constitution de Meiji, l'héritage direct en Asie, il faut s'intéresser aux constitutions, non pas révolutionnaires du Siam et de Chine, mais les constitutions impériales et monarchiques. Néanmoins, les constitutions révolutionnaires ont également été inspirées par la constitution de Meiji. On peut voir qu'en Chine comme au Siam, constitution révolutionnaire et monarchique partagent toutes un élément commun qui est l'idée d'une transition, c'est-à-dire l'idée d'une mise en place d'une constitution qui se fasse par étapes avec des échéances à 10 ans, à 20 ans. Donc à 10 ans, un parlement nommé, dans un premier temps, un parlement nommé, à échéance de 10 ans, un parlement élu. Donc ça, c'est des éléments qu'on retrouve à la fois dans les constitutions révolutionnaires et monarchiques et qui est proprement asiatique. Donc c'est intéressant de le noter. Alors, le critère commun à l'ensemble de ces constitutions monarchiques, c'est le rapport c'est la mise en œuvre de la souveraineté monarchique et d'une souveraineté monarchique qui est ancrée sur une dimension sacrée, la dimension sacrée de l'empereur ou du monarque. Et ces constitutions sont également des constitutions qui ont un rapport particulier à la théorie de la souveraineté et la théorie du pouvoir constituant, par le biais de chartes octroyées. C'est-à-dire que ces constitutions sont octroyées directement par le roi à leur sujet, dans un mouvement unilatéral. Et c'est en cela que la souveraineté monarchique est mise en œuvre. Et c'est finalement l'un des traits que l'on pourra retrouver encore aujourd'hui dans les constitutionnalismes asiatiques que nous avons au XXIe siècle. Cette idée d'octroi unilatéral, cette idée de pouvoir constituant qui vient d'en haut. Donc je vais conclure en vous expliquant pourquoi c'est si important de s'engager dans un processus de réflexion sur les circulations du droit constitutionnel en Asie. C'est fondamental parce que les études orientalistes, desquelles l'étude du droit français et occidental est toujours imprégnée, ont posé le droit comme le critère ultime de la modernité, qui est divisant le monde entre un Orient sans droit, avec des normes informelles, et un Occident réglé par le droit dur. Et l'Orient se serait ensuite modernisé par un processus d'occidentalisation qui n'aurait pas été abouti. C'est-à-dire que l'Orient aurait essayé d'adopter du droit, mais finalement le droit serait resté dans une position subalterne. Et donc cette vision-là, c'est une vision qui réduit le droit asiatique à une illusion, une banale copie, finalement absolument inintéressante pour le chercheur. Et dès lors qu'on considère que le droit asiatique a des caractéristiques propres, peut-être qu'il passe moins par les tribunaux, mais qu'il a tout de même des dynamiques propres qu'il peut être intéressant d'étudier, eh bien, on s'extirpe de cette vision orientaliste et on peut enfin étudier de façon empirique, de façon dynamique, le droit et apprendre quelque chose. Parce que finalement, à quoi sert une théorie, à quoi sert une interprétation? Est-ce réellement à établir des vérités ou est-ce plutôt à nous permettre d'étudier, à nous donner envie d'apprendre sur le monde qui nous entoure et à mieux le comprendre? Je pense que c'est surtout la deuxième fonction que la théorie a. Et donc, cette communication, en réalité, ce projet, c'était un plaidoyer pour la mise en branle du chantier de l'étude des constitutions asiatiques dans leur dynamique propre. Je vous remercie de votre attention.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, je remercie tout d'abord les organisateurs et organisatrices d'avoir accepté cette communication. Celle-ci va porter sur les dynamiques transnationales contemporaines en République de l'Altaï, un territoire de Sibérie du Sud intégré à la Russie. Donc, voici la carte. La majorité des habitants de cette région sont russes, les autochtones altaïens représentant quelque 30% de la population et lui assurant ainsi le statut de république autonome au sein de la Fédération russe. On compte aussi des groupes ethniques minoritaires tels que les Kazakhs, les Lettons, Ukrainiens, etc. Depuis la chute de l'URSS, l'Altaï s'ouvre au monde. Les interactions de la République avec l'extérieur sont de toute nature, aussi bien religieuses que culturelles ou commerciales. Dans la mesure où les Altaïens sont dans une démarche de construction de leur identité autochtone, ces formes multiples d'interactions contribuent à induire d'importantes transformations dans la société contemporaine. Dans un premier temps, je replacerai l'Altaï dans le contexte de la Russie d'aujourd'hui, puis je m'intéresserai à la manière dont s'organisent ces interactions. Dans un second temps, l'analyse montrera comment les pratiques et les représentations que ces interactions véhiculent contribuent à la redéfinition d'une identité et d'un territoire spécifiquement altaïen. Afin de bien mesurer les enjeux liés à la mondialisation dans l'Altaï, il me paraît nécessaire de revenir rapidement sur l'histoire de la région. Avant son intégration à l'Empire russe au milieu du XVIIIe siècle, l'Altaï est un carrefour d'échanges entre les peuples d'Asie septentrionale et centrale. Situé sur l'une des branches septentrionales de la route de la soie, il se trouve souvent à la jonction des différentes entités politiques qui se font et se défont dans l'histoire de cette partie du monde. Les autochtones sont alors des éleveurs nomades chamanistes et leurs spécialistes rituels, les kam, les chamans, doivent assurer protection à leur clan et obtenir la bienveillance des esprits. À partir de 1825, les missionnaires orthodoxes évangélisent la région, déclarée convertie à la fin du siècle. Tout au long du 19e siècle, arrivent aussi de nombreux colons russes, dont l'avancée pousse les autochtones toujours plus loin dans les montagnes. Ces derniers critiquent alors leurs propres chamans, perçus comme impuissants à contrer cette intrusion massive et la christianisation. Vers 1900 apparaît le burkhanisme. Ce millénarisme et messianisme veut fédérer les clans autochtones en réaction à la domination russe, à l'orthodoxie et à l'inefficacité du chamanisme. Les chamans détruisent leurs attributs, intègrent le clergé burkhaniste en tant que messager et ne traitent plus qu'avec des entités bénéfiques. En une décennie, le chamanisme altaïen disparaît. Puis, dès 1930, le burkhanisme est réprimé par le pouvoir soviétique, les autochtones sont sédentarisés et leurs troupeaux collectivisés. 60 ans plus tard, la chute de l'Union soviétique est allée de pair avec le renouveau de courants religieux dits traditionnels, le chamanisme et le burkhanisme. La plupart des autochtones se disent aujourd'hui païens et les spécialistes rituels se présentent généralement comme messagers burkhanistes. Certains agissent de manière individuelle, d'autres sont regroupés au sein du collectif Artian, la foi blanche, non vernaculaire du burkhanisme. Les enjeux de ce renouveau religieux traditionnel sont centrés autour des questions de l'identité et du territoire dans une perspective autochtone. Dans le but d'asseoir leur légitimité, nombreux sont les spécialistes rituels qui nouent des contacts hors des frontières de la République. Il en va ainsi des membres d'Artiang, du groupe Artiang, qui tentent de diffuser leur vision du monde le plus largement possible. Pour ce faire, ils participent dès qu'ils en ont l'occasion aux conférences et événements portant sur le monde turco-mongol, organisés régulièrement dans les régions administratives voisines de Sibérie du Sud. De par ses revendications écologico-traditionalistes, le groupe est présenté dans les médias comme nationaliste ou extrémiste et ses membres sont régulièrement condamnés par la justice. Tout en étant férocement critique à l'encontre des agissements du pouvoir fédéral, construction d'églises, implantation de croix dans le paysage, projets industriels et touristiques, et également suspicieux envers le monde russe, le groupe n'en reste pas moins ouvert et tente de s'allier les étrangers qui demandent à participer au rituel. Les spécialistes rituels qui officient individuellement quittent rarement la République, mais ils peuvent être célèbres au-delà des frontières de la Russie. Des touristes viennent les consulter pour bénéficier d'une cure ou d'une initiation. À ce titre, la situation est comparable à celle des républiques voisines de Touva ou de la Buryatie, ou au tourisme chamanique observé en Mongolie ou en Amérique du Sud. Akai Kine, l'un des spécialistes rituels qui fut le précurseur du renouveau religieux autochtone dans les années 1990, est aussi un autre entrepreneur et navigue entre l'Altaï et Moscou. Activiste politique, il relaie les revendications de comités d'opposition moscovite. Il milite pour que la momie exhumée dans les années 1990 et actuellement exposée dans le musée national altaïen soit réinhumée dans un mausolée, là où elle a été découverte, sur le plateau de Loukok, qui se situe à la frontière de la Chine et de la Mongolie. Les raisons qu'il invoque sont de nature millénariste et impliquent l'harmonie du monde. Ce business chaman s'assure des soutiens en Russie européenne et fait la promotion d'une doctrine tengriste auprès des populations turcophones du Kazakhstan et du Kirghizistan, au motif qu'elles aussi auraient vénéré le ciel éternel avant leur islamisation. Le bouddhisme, lui, gagne du terrain en Altaï, soutenu par l'intelligentsia, une partie en tout cas, qui voit en lui le moyen de fédérer tous les Altaïens autour d'une même religion et de les distinguer de leurs voisins islamisés d'Asie centrale. Si le soutien financier vient principalement de la République de Kalmoukie, en Russie également, les quelques moines altaïens sont impliqués dans une dynamique qui les fait passer pour se former du temple de Gorno-Altaïsk à celui d'Ivolga en Buryatie et pour gagner de l'argent à celui de Saint-Pétersbourg. Ils voyagent également en Inde. La venue des moines représentants, tels que le chef spirituel des bouddhistes de Russie, le Khombo Lama, permet d'affirmer l'assise de cette religion en Altaï. Il en va de même pour les autochtones convertis au christianisme pentecôtiste. Ils se déplacent dans les églises de Russie pour témoigner et participent à des séminaires à l'étranger. Certains m'ont déclaré s'être rendus en Ukraine, en Suisse, en Israël ou au Kazakhstan. Des frères et sœurs étrangers passent en Altaï pour les mêmes raisons. J'ai assisté à des cultes au cours desquels prêchaient des Américains ou à des séances de guérison marquées par la descente de l'Esprit-Saint organisées par des Ukrainiens et des Biélorusses. Le cas des artistes est également révélateur de l'inscription de l'Altaï dans un monde aux frontières désormais poreuses. Dans les pays occidentaux, l'engouement pour les musiques traditionnelles, caractérisé dans le cas de l'Altaï par le chant de gorge, a favorisé l'exportation de productions locales. Les musiciens de la République voisine de Touva ont été des précurseurs dans ce domaine et sont partis en tournée dès l'ouverture des frontières. Certains Altaïens sont désormais bien établis dans les circuits internationaux des musiques traditionnelles. C'est le cas de l'ensemble Altaïkaï et de son producteur Urmatin Taïev. La renommée qu'il a acquise à l'étranger lui a permis d'élargir son panel de compétences et de se lancer localement en politique. Tous les artistes locaux n'ont toutefois pas la chance de s'émanciper des structures qui les font vivre, à savoir les maisons de la culture des villages. Les déplacements des sculpteurs, tanneurs, peintres, écrivains altaïens sont généralement pris en charge par l'administration et limité aux frontières de la République. Mais les liens créés à l'époque soviétique entre les républiques socialistes ayant perduré, Quelques membres de l'intelligentsia autochtone participent à des conférences internationales organisées à Moscou, ailleurs en Russie ou dans les anciens pays satellites de l'URSS. Récemment, l'Altaï s'est ouvert au monde chinois. Des étudiants chinois sont accueillis à l'université de Gorno-Altaïsk, où une chaire de chinois a été créée, et des étudiants altaïens partent faire leurs études en Chine. Cela présage-t-il l'ouverture des frontières avec la Chine ? Un projet de gazoduc reliant la Russie à la Chine, qui entraînerait la création d'une route traversant le plateau de Loukok, que j'ai déjà évoqué, est pour le moment en suspens. Le site étant inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, les critiques sont vives et le projet est perçu comme une porte ouverte à l'invasion de la Sibérie par la Chine. Le prosélytisme du spécialiste rituel précédemment cité à Kaikine s'appuie fortement sur cette idée. Toujours est-il que les produits chinois sont déjà courants en Altaï. Ils transitent par la Mongolie et le flux des marchandises s'est accru depuis que les accords bilatéraux russo-mongols ont été mis en vigueur et qu'il y a eu une abrogation des visas. Le poste frontière est pris d'assaut et les échoppes de bibelots ont fleuri dans l'Altaï. Celles-ci répondent à une forte demande puisque le nombre de touristes est en constante augmentation. Avec plus d'un million de visiteurs chaque année, le tourisme est la priorité du gouvernement local qui veut en faire la première ressource économique de la région. Du point de vue fédéral, le potentiel de l'Altaï en fait une alternative crédible aux Alpes, ce qui permettrait de retenir les capitaux dans le pays. Outre ces paysages, de nombreux touristes visitent aussi l'Altaï pour marcher sur les pas du peintre mystique russe Nicolas Rerif et de sa femme, le médium Elena. Ces pionniers du New Age sont venus exprès dans la région lors de leurs recherches ésotériques dans les années 1920. Ils savaient qu'ils allaient y trouver l'équivalent d'une terre promise, vision que leurs adeptes contemporains tentent à leur tour de façonner en visitant ou en partant vivre dans l'Altaï et en consultant les spécialistes rituels autochtones. De surcroît, pour répondre à cette demande croissante d'authentique, un festival des cultures autochtones se tient tous les deux ans dans la République. Vitrine des cultures altaïennes, l'événement se place néanmoins dans la continuité des fêtes et célébrations soviétiques de l'unité. Enfin, un dernier cas exemplaire d'interaction se rapporte à l'émigration économique. Alors que le processus était encore rare il y a quelques années, de plus en plus d'autochtones partent travailler dans les régions économiquement plus florissantes de Russie. Pour la première fois, des diasporas sont apparues à Moscou et sur l'île de Sakhalin, qui se trouve au nord du Japon. À Moscou, ce sont majoritairement des jeunes ayant fait leurs études dans la capitale et qui ont décidé de s'y établir. Dans le même ordre d'idées, le Grand Nord russe et ses industries extractives attirent les hommes dans le cadre de contrats saisonniers. Donc après ce tour d'horizon non exhaustif des principales interactions de l'Altaï et de ses autochtones avec le reste du monde, je propose de nous intéresser à leurs conséquences en termes de pratiques et de représentations et de voir la manière dont elles influent sur la perception de l'identité et du territoire autochtone. Ces interactions servent de véhicule pour des idées, des techniques qui peuvent ainsi passer d'un groupe à un autre et forment ce que Michel Espagne nomme des transferts culturels. Définis comme le déplacement d'une somme d'éléments caractéristiques d'un espace et d'une époque vers un autre contexte culturel relatif à une autre aire géographique, ils ne sont pas un processus récent. Du point de vue religieux, nous avons pu analyser ailleurs le passage d'idées de la Perse à l'Altaï au cours de l'histoire et leur transformation ultérieure. Certains aspects du mouvement religieux burhaniste du début du XXe siècle sont eux aussi le fruit de transferts culturels. Voyons dans quelle mesure les interactions contemporaines peuvent être analysées sous cet angle et ce qu'elles nous apprennent. Tout d'abord, penchons-nous sur le cas des spécialistes rituels. Dans la mesure où la répression religieuse durant la période soviétique a entraîné une scission dans la transmission, certaines de leurs pratiques sont inédites et révolutionnent leur statut. Même s'il n'existe pas aujourd'hui de réel consensus sur les gestes et paroles à adopter et que l'improvisation et l'individualité demeurent des conditions sine qua non du chamanisme altaïen, ils construisent leurs savoirs et pratiques à partir des matériaux ethnographiques disponibles et s'inspirent parfois d'autres mouvements, comme le christianisme, le bouddhisme ou le New Age. Certains spécialistes rituels se voient révélés par des chamans étrangers, entre guillemets. Le fait n'est pas rare en Sibérie et nous avons pu voir des chamans Tuva, Buryat ou Yakout désignés ou confortés dans leur statut par des anthropologues américains adeptes de corps chamanisme ou par des chamans d'une autre ethnie.
L'implication de chamans étrangers n'est pas sans conséquence sur la vision de l'Altaï que les néophytes véhiculeront à leur tour. Ainsi, selon l'un d'entre eux initié en Mongolie, l'esprit de l'Altaï serait, depuis la période soviétique, localisé en Mongolie. Les rituels contemporains viseraient à favoriser son retour dans la région. Les pratiques peuvent comporter des traits relevant d'une perspective New Age. Nous avons vu que nombreux sont les touristes qui, inspirés par Rerir, veulent voir en l'Altaï le nombril du monde, un territoire sacré, baigné d'énergie régénératrice, aux habitants dont le mode de vie serait resté figé dans un passé de carte postale. Les écrits des Rerir sont aussi fréquemment mobilisés par les spécialistes rituels qui en réemploient le vocabulaire et les idées auprès de cet auditoire russophone. Ils empruntent également leur lexique à la télévision, des programmes russes tels que la bataille des extrasens bénéficiant depuis plusieurs années d'une audience record dans le pays. Ainsi, des termes tels qu'énergie, karma, transe, extase ont imprégné le quotidien des Altaïens et servent aujourd'hui à décrire leur vision du monde, bien qu'ils ne possèdent pas d'équivalent dans la langue vernaculaire. De par leur diffusion tout autour du monde, ces termes témoignent de l'inscription de l'Altaï dans la globalisation et figurent comme des cas exemplaires de transfert culturel. Un processus comparable est à l'œuvre avec les convertis au christianisme évangélique. La vision du monde défendue dans le pentecôtisme caractérise d'une manière identique les pratiques traditionnelles autochtones. Que ce soit dans l'Altaï ou au Guatemala, elle relève d'un commerce avec le diable, merci, et les entités invoquées sont systématiquement démoniaques. Cette uniformisation des représentations témoigne du transfert d'idées à l'œuvre en Altaï et contribue à inscrire les convertis altaïens dans un monde chrétien globalisé. Le cas du groupe religieux Artiang est intéressant à plus d'un titre. Les pratiques défendues par ses membres sont standardisées et leur discours normé. À leur auditoire étranger, ils exposent une vision de l'Altaï comme un territoire singulier qui a un rôle particulier à jouer dans l'équilibre du monde. Plutôt que l'adhésion à leurs idées, ils recherchent la reconnaissance et le soutien. Si l'on se rapporte à leurs revendications et à la lecture que donne Appa Durail de la globalisation, il est alors possible de concevoir ce groupe religieux comme une réaction à la force de l'État-nation que représente la Russie. Il est possible de voir dans l'action de ce petit groupe d'influence locale qui tente de communiquer aujourd'hui à l'échelle internationale, la volonté de figurer en tant qu'acteur au sein d'une société civile transnationale. En substance, leurs actions rejoignent celles des représentants autochtones. Certains, qui ont bénéficié de bourses du Haut Commissariat aux droits de l'homme, sont partis se former à l'étranger dans le but de faire valoir leurs droits à l'ONU. D'autres s'inspirent des politiques occidentales en matière d'écologie pour réclamer la création de réserves naturelles dans l'Altaï. Il en va de même pour l'intelligentsia et les représentants culturels. Comme on l'a vu, leurs déplacements sont généralement limités à la zone d'influence de l'ex-URSS. Ils découvrent néanmoins les structures mises en place pour la conservation de l'identité du patrimoine culturel autochtone dans les différentes régions qu'ils visitent, ce qui leur sert souvent de point d'appui pour des revendications au niveau local. Alors l'ouverture au monde et les interactions, qu'elles se fassent par les voyages ou via Internet, permettent aux Altaïens de se rendre compte de la situation dans d'autres régions du globe. Ils s'inspirent des luttes et des politiques qui se jouent ailleurs pour les transposer en Altaï. Et bien que la plupart des déplacements soient limités à la Russie, aux ex-républiques d'Asie centrale, les idées nouvelles circulent comme la défense des droits ethniques ou de la biodiversité et les connexions permettent l'obtention d'un soutien moral, administratif et financier de l'étranger. Parallèlement, ces multiples interactions ont un point de convergence. Elles favorisent la perception de l'Altaï comme un lieu unique au monde, doté d'une biodiversité exceptionnelle et dont les habitants contemporains sont les descendants d'une culture millénaire singulière. Et même si les frontières administratives et culturelles de la République sont le pur produit de la politique soviético-nationalité, elles se voient aujourd'hui habilement récupérées dans la mise en avant d'une originalité altaïenne face au reste du monde. De mon point de vue, c'est peut-être la reconnaissance internationale des Altaïens en tant que groupe ethnique et culturel singulier, ainsi que les perspectives dans la défense de leurs droits et de leur territoire qui seront susceptibles de favoriser leur union au-delà des divisions claniques, religieuses ou sociales. Jusqu'à très récemment, à la différence de nombreux peuples d'ex-URSS, les Altaïens étaient pratiquement les seuls à ne pas quitter leur région d'origine pour s'établir à l'étranger. L'attachement d'une personne à l'Altaï passait par un lien quasi physique, à tel point qu'Agnieszka Alemba déclarait, je cite, que l'Altaï et les Altaïens sont si solidement liés qu'ils ne peuvent être à certains moments séparés ontologiquement. Le peuple et le territoire ne font qu'un. L'Altaï est perçu comme partie intégrante d'une personne. Il existe une quantité invraisemblable de discours sur l'impossibilité d'abandonner l'Altaï. Les Tlengites disent que si un Altaïen quitte l'Altaï, il tombera malade et mourra. Fin de citation. Ici est exprimée la perception d'une identité altaïenne spécifique, définie en termes de relation à un territoire bien déterminé. Si cette idée est toujours en vigueur aujourd'hui, on constate que les Altaïens qui ont franchi le pas et se sont installés hors de la République ont la volonté d'être des représentants de cette singularité altaïenne. C'est cette idée qui incite les diasporas altaïennes à la création d'un Altaï dans l'ailleurs. Ainsi, les jeunes Altaïens de Moscou se sont appliqués à ouvrir un café altaïen et à organiser les rituels saisonniers. S'il n'est pas difficile de recréer l'atmosphère de l'Aïour dans un café, il n'est en revanche pas aussi simple d'implémenter les pratiques et la vision du monde altaïenne dans une mégalopole. Altaï Kiné, toujours, le spécialiste rituel dont nous avons déjà eu l'occasion de parler, merci, a été en charge du déroulement des rites à Moscou. C'est donc sa vision de l'Altaï qui est diffusée aux membres de la diaspora et aux curieux qui participent aux événements, bien que les arguments qu'il porte soient loin de faire l'unanimité dans la République de l'Altaï. Pour conclure, je dirais que si les Altaïens, anciens éleveurs nomades, sont dans une dynamique de la mobilité constante, leurs déplacements restent majoritairement confinés au territoire de la République. Ils consistent principalement en des allées et venues entre leur village et la capitale. Parmi les Altaïens qui se déplacent hors de la République, nombreux sont ceux qui m'ont dit ne pas pouvoir rester plus de 2 jours loin de leur montagne. Nous avons ici une illustration des fondements de la pensée autochtone qui font de l'Altaï un territoire singulier pour ses habitants. Les différentes formes d'interaction avec le reste du monde que nous avons abordées ne font que renforcer cette perception. Que ce soit le point de vue des touristes, celui des scientifiques, celui des adeptes du New Age, tous s'accordent à voir dans l'Altaï un lieu d'exception à la biodiversité unique dont le sous-sol renferme des trésors archéologiques de premier plan, dont les habitants sont les héritiers d'une culture millénaire. Ceci concourt à ce que la diaspora surenchérisse de son côté, contribuant à l'apparition d'un cercle vertueux dans lequel une pluralité d'acteurs localisés en une multitude de lieux nourrit une perception commune. Finalement, celle-ci est récupérée et mise à profit par les adeptes des différents courants religieux dits traditionnels qui parviennent ainsi à donner une assise quasi-millénariste à leur vision du monde. Si l'Altaï disparaît, c'est le monde qui disparaîtra. Au-delà de toute cette réflexion, une anecdote étymologique suffira pour appréhender ce que représente l'Altaï pour les Altaïens. Le terme Altaï revêt un large éventail d'acceptations. Il n'est ainsi pas rare qu'un autochtone demande à une personne « Quel est ton Altaï ?» pour savoir quel est son pays d'origine. En ce sens, l'Altaï n'est pas seulement inscrit dans le monde, il est n'importe quel endroit du monde. Il est le monde. Et sans l'Altaï, le monde ne serait simplement plus le monde. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. Alors, quelques commentaires et quelques premières questions avant de rendre la parole à ma collègue et d'ouvrir le débat à la salle. Donc la première question dont je voudrais partir et qui me semble déjà ressortir des communications, qui, je l'espère et je m'en doute, va continuer d'être posée par la suite, c'est une question qu'on pourrait formuler comme, en fait, à partir de quel niveau d'échange est-ce qu'on peut parler de mondialisation ? Ou, pour le dire autrement, qu'est-ce que c'est que la spécificité de la situation actuelle qui mérite qu'on la qualifie différemment et qu'on dise, ben, nous vivons aujourd'hui dans une société globalisée ou dans un monde globalisé. Parce que, on l'a déjà dit dans l'introduction et certaines communications l'ont déjà rappelé, les échanges entre les peuples, même à grande échelle, même à très grande échelle, c'est pas nouveau. Alors bien sûr, c'est une vieille question, et il y a des auteurs comme David Harvey qui ont déjà essayé de définir la spécificité de la situation actuelle, mais c'est quand même une question qui se pose différemment, qui se pose de plus en plus au moment où se multiplient ce qu'on a maintenant l'habitude d'appeler les histoires globales. C'est un petit peu un terme à la mode, c'est un buzzword, et c'est quelque chose qui repose la question de la spécificité de la globalisation actuelle. Donc, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les sociétés fermées, isolées, repliées sur elles-mêmes, qu'ont parfois décrit à contrario ceux qui ont voulu étudier la globalisation comme si c'était une invention occidentale récente, hein, c'est un modèle qui apparaît souvent de façon implicite dans les travaux sur la globalisation, ces sociétés-là n'ont jamais, probablement jamais existé. Donc, la première question, je pense, qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on vit quelque chose de nouveau ? Ou est-ce qu'on découvre seulement maintenant quelque chose d'ancien ? Et est-ce qu'on change notre perspective sur quelque chose qui, finalement, a toujours existé ? Donc, la première communication par Eugène Limérieux, c'est une très bonne illustration de cette idée, il me semble, puisque décentrer le droit constitutionnel nous permet, justement, de désorientaliser le droit. La question que je voudrais poser est une question peut-être, presque ironique, mais alors je ne sais pas si ça fera sens, parce que c'est toujours difficile de poser des questions sur le droit quand on n'est pas juriste, mais est-ce que l'étape suivante de la provincialisation du droit, ce ne serait pas justement de le déconstitutionnaliser ? Ça apparaît un petit peu dans la suite de votre présentation, ce dont vous n'avez pas pu parler aujourd'hui, puisque vous essayez de distinguer différentes traditions de droit, peut-être que vous pourriez revenir là-dessus, mais est-ce qu'on gagne en diversité et en richesse de description de systèmes juridiques quand justement on n'essaie pas de prendre la constitution et la constitutionnalisation comme un critère de fondation juridique dans une société donnée. La question que j'aimerais poser à Nolwenn Salmon, elle est presque inverse, puisque je voudrais revenir sur l'usage que vous faites de la notion d'hybridité. Vous avez décrit les tensions et donc l'hybridation, entre une norme importée de professionnalisme journalistique et des contraintes politiques locales. Alors, donc la question que je voudrais poser, c'est est-ce que cette contradiction que vous soulignez entre un journalisme prétendument objectif et le désir d'engagement, est-ce que cette contradiction n'est pas déjà présente dans la pratique anglo-américaine, anglo-saxonne, du journalisme ? Et est-ce que souvent ce désir d'engagement n'est pas utilisé comme une excuse pour l'impossibilité d'être parfaitement objectif, quoi. Je ne peux pas. Si j'ai décollé de la réalité, c'est parce que je suis éthiquement engagé à la représenter d'une certaine manière. Est-ce que finalement le professionnalisme engagé que vous attribuez aux journalistes chinois et qui semble être un modèle local, vernaculaire de journalisme, est-ce que ce modèle-là ne pourrait pas servir à décrire l'éthique journalistique ailleurs dans le monde et en particulier dans le milieu anglo-saxon ? Alors finalement, la question que je voudrais poser à Clément Jacquemous est un peu plus longue parce que le sujet est plus proche de mes centres de recherche, de mes intérêts de recherche, pardon. Et elle nécessite le détour par un commentaire que je vais essayer de faire court, de dire de façon concise. Alors, ce qui ressort de ta présentation, Clément, et ce qui me semble très intéressant, c'est que le notionnalisme est souvent vu comme une résistance, justement, à la mondialisation, et se présente volontiers lui-même, les mouvements nationalistes se présentent volontiers eux-mêmes comme des alternatives à la globalisation américano-centrée. Et ce qu'on voit particulièrement bien dans le contexte socialiste et dans ta présentation, avec les pratiques néo-traditionnalistes qui s'y développent, c'est que se développe un petit peu partout, de façon paradoxale, une internationale traditionnaliste. C'est quelque chose qu'on voit déferler aussi sur l'Europe, pas seulement par les victoires successives de l'extrême droite de gouvernement, mais au cœur même des partis conservateurs, qui semblent développer ce qu'on pourrait appeler, sur le modèle du national-socialisme soviétique, un national-capitalisme. C'est-à-dire national dans la forme et capitalisme dans le contenu. Donc, est-ce que justement ce modèle ne trouve pas son origine dans les sociétés post-soviétiques qui ont fait ça très bien, le national-capitalisme, qui ont fait ça très bien depuis les années 90, qui a choqué l'Occident beaucoup, hein, en Mongolie, beaucoup d'observateurs internationaux sont choqués par le sens commun d'extrême droite et le sens commun nationaliste en Mongolie, qui va de pair avec une économie capitaliste mondialisée. Ça ne dérange pas du tout, ça n'a jamais dérangé les Mongols d'être à la fois complètement traditionnaliste, très nationaliste et parfaitement capitaliste. Donc ça dérange de moins en moins les gouvernements et les populations européennes. Donc est-ce que là, on n'aurait pas une mondialisation traditionnaliste inversée qui viendrait du monde soviétique? Et quels sont les soubassements politiques de ce néo-traditionalisme dans l'Altaï? Est-ce que des tensions apparaissent du fait que ces mouvements conservateurs soient quand même en partie financés par des formes de tourisme qui se veulent progressistes et alternatives? Donc voilà, j'arrêterai là mes questions pour laisser la parole aux intervenants. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tout, c'est quelque chose qui peut faire l'objet de discussions futures, et pour ouvrir le débat à la salle. Je ne sais pas à qui je donne le micro. Est-ce que vous...
Merci beaucoup pour cette question. La question est la suivante. Est-ce que l'étape suivante du décentrement de notre approche du droit ne serait pas de déconstitutionnaliser le droit? Je pense que c'est peut-être la question la plus intéressante qu'on n'a jamais posée. Et je suis tout à fait d'accord que c'est vraiment la piste de recherche qui doit être abordée, mais ça ouvre tout un champ de recherche qui est absolument faramineux, parce qu'il faut en fait remettre en question le caractère central de la Constitution pour la compréhension d'un système juridique donné. Et c'est vrai que cette remise en question, bon, elle ébranle l'ensemble de la science juridique telle qu'elle est enseignée et pratiquée dans nos sociétés occidentales. Donc c'est vraiment, cette nouvelle étape serait un tremblement de terre dans les facultés de droit. Je pense qu'on peut s'attendre à une levée de boucliers majeurs. Enfin bon, comme d'habitude, il faudra donc déplacer ce questionnement dans les facultés de sciences politiques, sociologie, anthropologie. Parce que dans les facultés de droit, bien sûr, c'est exclu de poser cette question. Mais quand on s'intéresse à la question des transfert normatif, qui est une question qui intéresse aussi les juristes, plus dans une approche pragmatique. Comment est-ce qu'on va démocratiser une société X grâce à un transfert de constitution, qui est généralement la question pratique que les juristes se posent. Et on bute immanquablement sur l'impossibilité de la démocratisation par le transfert d'une constitution dite démocratique. Parce que justement, la constitution, ce document formel, n'a aucune valeur intrinsèque en soi s'il ne s'insère pas dans un certain ordre juridique donné. Donc quand on parle de constitution, il vaut mieux réfléchir à la notion de constitution matérielle qu'à celle de la constitution formelle, c'est-à-dire penser que la constitution, c'est également l'ensemble du droit pénal, l'ensemble des conventions, l'ensemble de normes qui peuvent être non écrites, et réfléchir à partir de ce matériau-là. Et je pense que en effet, quand on travaille sur les sociétés asiatiques, c'est une réflexion qu'on peut importer. Mais jusqu'alors, ça a été utilisé justement pour dire que l'Asie n'avait pas de droit. Donc en fait, cette étape, elle est fondamentale, mais est-ce qu'elle n'est pas prématurée dans le sens où en fait elle viendrait finalement mettre à mal la démarche qui est de dire il faut étudier le droit asiatique. Et voilà, il y a tout un ensemble après de questions. La Constitution, c'est l'idée que c'est la primauté de l'État. La primauté de l'État, l'idée que le droit s'exerce de façon uniforme sur tous les territoires, alors qu'on sait bien que ce n'est pas du tout le cas, il suffit de penser aux lois d'urgence, etc., qui ne sont pas du tout le privilège de l'Occident. Donc on a toute une série de questionnements qui sont fascinants et qui en effet, je pense, sont un agenda de recherche pour les prochaines 50 années à venir. Donc merci beaucoup pour cette question.
Merci également pour cette question. Donc, je reprends brièvement, comme je l'ai comprise. En gros, c'est de dire que le professionnalisme engagé n'est pas uniquement chinois et qu'il y en a aussi dans le modèle anglo-saxon. J'en suis complètement, je suis complètement d'accord avec ça. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est-à-dire que justement, ce n'est pas un modèle local. C'est-à-dire, ce modèle-là, on le retrouve alors dans certains pays où c'est clairement constitué comme le modèle du professionnalisme, donc les pays d'Europe du Nord, notamment en Europe centrale. Et dans les modèles américains, anglais, et puis bon, pour la France aussi, qui a été influencée après par les normes anglo-saxonnes, de plus en plus, les journalistes vont clairement dire, de toute façon, l'objectivité est impossible. Donc, voilà, ça ne leur pose pas problème, en fait. Ils sont assez... ce qui m'intéresse, moi, c'est pourquoi les journalistes chinois sont autant bloqués. Pourquoi il y a une contradiction? Pourquoi, au cours de l'entretien, ils arrivent à me dire... Mais je ne sais pas, je suis perdue, je ne sais plus du coup qu'est-ce que c'est que le journaliste, à quoi il faut aspirer. Il y a vraiment un malaise constant et extrêmement fort. Et les seules personnes de ces groupes-là qui ne ressentent pas le malaise en disant qu'ils veulent être à la fois professionnels et engagés, c'est ceux qui vont faire de la Chine une situation d'exception. C'est-à-dire, ils vont dire, oui, alors certes, on enfreint les normes du journalisme, mais la Chine est une situation spécifique où il y a la censure, etc. Donc on est obligé. Mais quand la situation politique, l'idée c'est que quand la situation politique ne sera plus, ou si elle n'est plus dans cette situation anormale, alors le journalisme chinois reprendra ce qu'il doit être, c'est-à-dire un journalisme objectif. Donc c'est toujours pensé comme une anormalité, comme une infraction, mais négative à la règle. C'est-à-dire on n'y arrive pas, on n'atteint pas ce modèle-là. Alors que c'est des questions très compliquées, hein, l'objectivité, etc. Mais dans la plupart des autres pays où il y a un mouvement de retour en disant l'objectivité, c'est pas possible, c'est pas pensé comme une anormalité locale, ou c'est pensé plus théoriquement comme qu'est-ce que c'est que l'objectivité, quelles sont les normes qu'on va pouvoir atteindre. Donc voilà, c'est sur le malaise, en fait, sur la tension que je voulais travailler spécifiquement, mais pas du tout dire que c'est une question spécifique.
Alors, Grégory, si je ne me trompe pas, ta première question concernait le développement d'un que tu appelais un national-capitalisme, et tu te demandais si ce modèle ne serait pas né dans les sociétés post-socialistes. Et la deuxième question portait sur les mouvements religieux éventuellement financés par des touristes qui venaient en Altaï, et donc ça pouvait paraître un peu paradoxal. Alors, par rapport au développement du national-capitalisme, est-ce que ce serait le modèle des sociétés post-socialistes? En ce qui concerne l'Altaï, la chute de l'URSS est allée de pair avec le retour de certaines structures au niveau vraiment très local, par exemple le retour du clan, et donc qui a joué un rôle de remplacement face aux infrastructures étatiques qui partaient, hein, qui se délitaient. Et donc il y a eu qui a servi de pôle d'entraide entre des personnes qui avaient des affinités claniques. Et également les différents mouvements religieux. Donc j'ai parlé du pentecôtisme, et puis également du mouvement Artiang. Donc ces mouvements, à partir du moment où une personne s'engage dans ce type de mouvement, c'est vrai qu'au niveau clanique, du coup, elle va être décrédibilisée, et c'est ce qui va également la pousser à s'engager plus loin dans ce groupe religieux qui va devenir une sorte de famille. Et c'est là qu'une forme d'entraide également va avoir lieu entre les différents membres de ces groupes. Donc, finalement, et l'entraide ne va pas du tout être monétisée. Donc, c'est vrai que c'est un revers complet de cette société aujourd'hui très libérale en Altaï. Et quant au fait que les touristes puissent éventuellement financer ce type d'approche, finalement, les touristes, en tout cas en ce qui concerne le mouvement religieux artien, qui est assez. Qui met en avant une espèce de forme de nationalisme, les touristes ne vont pas beaucoup le voir. Ne vont pas auprès de leurs spécialistes rituels, ils vont plutôt auprès des spécialistes rituels indépendants. Et donc, là, du coup, il y a moins cette ce paradoxe, en fait. Donc, voilà. Oui. Il y a des questions ?
Écoutez, peut-être une question, oui, une question à Eugénie. J'étais très intéressée donc par votre observation, par l'analyse de ces circulations interasiatiques, avec l'idée que quelque chose joue de particulier à cette échelle asiatique. Quelque chose qui nous amène à réfléchir à des formes d'autoréférencement et qui pose la question, plus celle seulement de spécificité locale, mais celle de spécificité asiatique qui rentre en tension ou en dialogue avec des spécificités locales. Alors, en vous écoutant, je m'interrogeais sur... sur l'intérêt d'une approche par les langues, par le lexique dans votre approche comparée. Donc, est-ce que vous faites ce travail sur les langues et est-ce que ce lexique, les mots qui sont utilisés, notamment des mots qui sont peut-être difficilement traduisibles, les intraduisibles, pour reprendre l'expression de Barbara Cassin, sont révélateurs justement de spécificités?
Merci beaucoup pour cette question. La manière avec laquelle j'ai abordé l'étude des langues, c'est par le siamois, dans le cadre de ma thèse, où je me suis intéressée aux constitutions chinoises et japonaises traduites en thaï et utilisées par les Thaïlandais pour rédiger leur constitution. Et donc, dans ce cadre, j'ai noté un certain nombre de spécificités, en effet, sur le lexique, notamment sur la notion de sacré, et aussi des erreurs de la part des Siamois qui, pour la notion de sacré, par exemple, ont pensé traduire, se sont contredits sur la traduction à donner au terme de sacré dans la constitution de Meiji. Hélas, mes compétences linguistiques en japonais sont inexistantes et en chinois très limitées. Et donc, c'est vrai que c'est un projet qui donc est un projet de long terme que j'amorce maintenant, qui nécessiterait soit un travail collectif, ou du moins un travail collectif dans un premier temps, justement pour pouvoir faire vraiment ce travail de langue, et dans un plus long temps, beaucoup plus de terrain, que ce soit au Japon ou en Chine. Mais je pense que c'est, en effet, c'est un critère clé, et il faudrait pas beaucoup de travail, mais... C'est un bon projet.
On va peut-être passer la parole à la salle. Est-ce que vous avez des questions? On a 5 minutes à 1, 2, 3 de nos orateurs.
Merci pour ces présentations qui étaient passionnantes. C'est une question, remarque, porte ouverte un petit peu pour Eugénie sur ce que tu disais sur le fait que le droit asiatique n'était finalement qu'une copie, était présenté, était perçu, identifié comme simplement une copie et qu'il n'y avait pas de dynamique objective de production. Il me semble que c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans d'autres domaines. Moi, je suis sur le champ des études cinématographiques. En France et beaucoup en Occident, le cinéma japonais, on l'a perçu par le prisme d'un auteur américain qui a vécu en France, qui est Noël Birch, qui avait fait un livre qui s'appelle « Pour un observateur lointain » et qui a fait un ouvrage beaucoup plus générique sur le cinéma qui s'appelle « La lucarne de l'infini » et dans lequel il dit presque littéralement, je me trompe peut-être sur quelques termes, mais on n'est pas loin, que le seul modèle cinématographique est le modèle occidental hollywoodien et que notamment en Asie, il n'y a qu'une copie, une reproduction des codes ou une opposition. Et dans mon champ d'études, on reste beaucoup marqué par ça, et les cinématographies d'Asie, mais pas seulement, on peine à les étudier, parce que finalement, on les étudie toujours en copie d'eux, en miroir. Donc, je trouve un peu dans le même modèle de ce que tu disais. Pour ton plaidoyer, je ne sais pas si tu pouvais, du coup, tu voulais nous en dire plus.
Moi, je propose de collecter les questions pour qu'on puisse répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Du coup, c'était une question pour Nolwenn. Comme je travaille aussi sur le cas chinois, effectivement, cette question de malaise, j'ai observé exactement la même chose sur mon terrain avec le cas des documentaristes chinois et cette question de l'objectivité qui était vraiment revendiquée. Donc, je me posais donc la question, est-ce que cette revendication à l'objectivité se traduit concrètement par des méthodes de travail précises, que ce soit la question de la mise en récit ou de la relation aux interviewés ou aux personnes avec lesquelles les journalistes sont en contact? Et d'autre part, est-ce que les journalistes ont une forme de réflexion sur eux-mêmes, c'est-à-dire est-ce qu'ils se réunissent, est-ce qu'ils discutent de ce malaise et est-ce qu'ils cherchent collectivement les moyens de le dépasser ou alors pas du tout, est-ce que chacun reste à lutter un peu avec son malaise individuel tout seul? Voilà.
Merci à tous les trois pour cette présentation très intéressante. Une question pour Clément Jacquemot. On a parlé un peu de questions linguistiques et ça va être un peu du même style. Donc tu parles un peu de l'ouverture de l'Altaï sur le monde. Quelle est la langue qui est utilisée? Quelle est la langue d'échange, par exemple, entre les Altaïens et puis les Bouriates ou les Russes qui viennent, ou carrément les gens d'Occident? Est-ce qu'il y a une espèce de lingua franca qui s'est imposée? C'est peut-être pas l'Altaïen. Donc, grosso modo, quel est le statut de la langue altaïenne? Est-ce qu'elle connaît une espèce de renaissance, de renouveau culturel, ou est-ce qu'au contraire, elle est sacrifiée sur l'autel de l'internationalisation? Et deuxième question qui devrait être assez rapide, en tant que géographe, moi j'aime bien parler de territoire, est-ce que cette renaissance culturelle altaïenne, est-ce qu'elle se voit dans les territoires, dans l'espace? Est-ce qu'il y a un marquage de l'espace par des monuments, des marquages religieux, symboliques de l'espace?
Une seconde. J'aurais également une question à Nolwenn dans la suite de ce que vous venez de dire. Est-ce qu'il y a une réflexion sur la notion d'objectivité comme concept universel?
Merci beaucoup pour cette question. Donc, je pense que dans tous les champs, en fait, c'est le principe de base de l'orientalisme, c'est dans tous les champs, on va saisir l'objet étranger, l'Asie, comme étant une réaction, soit de copie, soit d'opposition, à des grilles de lecture qui sont les nôtres. Et donc, forcément, c'est une démarche qui est autoréalisatrice, puisqu'à partir du moment où on considère que seules nos grilles de lecture sont celles qui ont été soit reproduites, soit opposées par l'autre, on ne peut pas, par définition, s'intéresser à d'autres grilles de lecture. Donc c'est vraiment un circuit fermé qui, comme je le disais, ne nous permet pas d'ouvrir de nouveaux horizons de recherche, de comprendre le monde dans lequel on vit. Donc l'idée... encore une fois, que ce soit sur le droit ou dans l'ensemble des dynamiques, c'est de déconstruire cet orientalisme. Et je pense que le droit, c'est particulièrement intéressant, comme je le disais, parce que ça a été considéré comme le critère de la modernité. Et on retrouve ça dans un... C'est vraiment lié à la raison universelle, c'est le droit, les lumières, c'est le droit. Et donc, c'est par ce prisme-là que je prends mon plaidoyer. Mais je pense que toutes les approches, en réalité, convergent. Et ce serait, enfin, je pense que c'est aussi l'objectif de cette journée d'études, c'est d'aller tous ensemble dans la même direction par des angles différents. Et un autre point qui est intéressant, je pense, c'est cette question de structure ou d'agent, et dans l'orientalisme on renie la capacité des acteurs locaux à avoir des stratégies qui leur sont propres, à instrumentaliser également les grilles de lecture occidentales. Donc ça, on le voit très bien dans le droit, et tout le processus de modernisation conservatrice, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on va prendre un objet et puis on va le détourner de l'objectif pour lequel il a été pour lequel on le brandit comme étendard, pour réaliser un certain nombre de stratégies personnelles, de groupes, institutionnelles, etc. Et donc, Je pense que c'est important à chaque fois d'essayer de démêler ça. Bien sûr, la seule manière de le démêler, c'est quand on a un accès au terrain, un accès à la langue, un accès un peu plus poussé à la culture. Et donc, ça demande du travail, comme tout. Voilà.
Merci beaucoup pour vos questions. Donc sur la première, donc la question en fait de la pratique. Effectivement, on voit donc j'ai parlé de plusieurs générations. On voit une évolution réelle des pratiques d'écriture entre la génération précédente et celle des journalistes jeunes actuellement. Donc les normes d'écriture ont évolué. Avant, on avait clairement des récits lyriques avec le sujet écrivant qui était vraiment présent dans l'écriture. On voit qu'il y a une disparition en façade de plus en plus importante, c'est-à-dire qu'on voit moins clairement la patte du journaliste. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, sur la question de plus d'objectivité, c'est que juridiquement, ils sont très fragiles, c'est-à-dire, juridiquement. S'ils écrivent un article engagé, ils sont très facilement attaquables par le parti. Donc plus ils vont prendre les atours de l'objectivité, la façade de l'objectivité, moins ils vont être facilement attaquables. C'est-à-dire qu'il faut que tout ce qu'ils avancent soit scientifiquement, juridiquement prouvé, s'ils ne veulent pas ensuite que le parti puisse utiliser ça pour les critiquer. Même si le parti peut passer au-dessus de ça, s'il veut vraiment les critiquer, c'est quand même une protection de dire « oui, mais j'ai les chiffres, j'ai fait telle mesure, etc. » Donc il y a un mouvement vers une pratique plus objective de l'écriture, mais c'est encore une fois, c'est beaucoup une question aussi d'effacer les signes de la subjectivité et du point de vue. Parce que quand on les lit, les articles, ils ont un point de vue, ils ont une direction. C'est juste, mais c'est comme, là ça appelle la question de la réflexion sur l'objectivité. L'objectivité n'est pas possible, comme vous le savez, on a la même réflexion dans les sciences humaines que dans l'écriture, c'est-à-dire qu'il y a un point de vue. On pourrait, c'est vrai, avoir juste un listing de faits dans les articles. Ce n'est pas le cas en Chine. On a des articles qui sont avec un point de vue sous-jacent. Par contre, en termes de pratique d'écriture, effectivement, il y a une évolution. Ça correspond plus aux normes d'objectivité du journalisme. Sur la question de la discussion, donc déjà, c'est une question qui n'est pas très évidente parce que c'est une question qu'ils évitent. Ils ne veulent pas. Ils sont mal à l'aise pour l'aborder, puisque justement, ils sont mal à l'aise sur ce point de vue. Oui, je vais essayer de faire. Ils sont mal à l'aise sur ce point de vue, donc on n'a pas pu beaucoup échanger. Je sais qu'ils en parlent pour certains entre eux, qui débattent de ces questions. On voit aussi qu'ils évoluent au cours de leurs années. Ils sont plus à l'aise plus tard, donc c'est qu'il y a une réflexion qui a maturé. Bon, là, je dois faire vite, donc je vais couper à la machette. Il y a deux niveaux dans vos questions. La réflexion en pratique engagée et objectivité et sur le concept d'objectivité lui-même. Moi, ce qui m'a frappé, c'est justement qu'on ne nous parle pas de réflexion sur le concept d'objectivité lui-même, alors que c'est une des premières choses que les journalistes d'autres pays en général vont nous faire, c'est-à-dire, de toute façon, l'objectivité, et là, non, on la garde comme un concept dur, comme si justement ce modèle, on ne pouvait pas le remettre en cause, et ces normes non plus, on ne pouvait pas les remettre en cause.
Je vais faire très court, du coup, pour répondre aux questions de Martin. Donc, par rapport à sa question de géographie, est-ce qu'on voit une renaissance visible dans le territoire? Est-ce qu'il existe un marquage symbolique? Eh bien, j'ai évoqué l'esprit de l'Altaï qui se trouvait pour certains en Mongolie. Pour d'autres, il est bel et bien présent dans l'Altaï lorsqu'une personne pénètre dans le territoire de l'Altaï, qui est donc à la fois désormais compris comme les frontières administratives de la République qui ont été élaborées pendant la période soviétique, et également qui sont visibles puisque c'est un territoire qui est montagneux, donc on sort de la steppe et donc c'est fortement visible. Donc, à partir du moment où on rentre dans ce territoire, on doit faire un petit rituel pour l'esprit de l'Altaï. Après, à l'intérieur même du territoire, le groupe religieux dont j'ai parlé, Artiang, ont construit des sites culturels dans plusieurs villages. Donc, les villages sont également l'héritage de la période soviétique, mais du coup, ils sont réutilisés pour recréer un espace, disons, sacré à l'intérieur de l'Altaï qui est ranimé lors de chaque rituel saisonnier. Ensuite, du point de vue de la langue, est-ce qu'il y a un renouveau ou est-ce qu'elle est en train de disparaître? Eh bien, et puis, quelle est la langue employée au quotidien pour les interactions? Donc, le russe est bien évidemment la langue principale utilisée au quotidien par les différents groupes altaïens pour communiquer entre eux, puisque leurs langues vernaculaires ne sont pas forcément intercompréhensibles. Et puis, certaines disparaissent, voire on peut dire qu'elles ont disparu aujourd'hui, tandis que celles des Altaïens, qui sont le groupe autochtone majoritaire, sont enseignées à l'école. Mais bon, face à la télévision russe, c'est difficile de lutter. Voilà la situation globalement sur ce point en Altaï.
Voilà, exactement. On a amplement déjà dépassé l'heure. On est fautif aussi, nous, de notre côté. On vous invite à descendre en salle 11 du troisième étage, autour d'un petit café ou d'un petit thé. On pourra discuter, d'une mini-ardise aussi. Voilà. Merci beaucoup. Rapidement, 5-10 minutes grand maximum, et on est de retour ici. À tout à l'heure.